L'invité de la rédaction, Valérie Vial.
Mon invité de la rédaction aujourd'hui est Yosef Gabizon du domaine viticole du même nom. Un vin produit en biodynamie raisonnée ici en Alsace, dans le Haut-Rhin. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la particularité de ce vin. Il est cachère. Yosef Gabizon, bonjour.
Bonjour.
Ravi de vous recevoir.
Pareillement, ravi d'être reçu.
Les domaines, en fait, ce n'est pas tout à fait un domaine. Ce sont des vignes qui ont plus de 30 ans en Alsace. Vous récupérez des cépages et vous faites vous-même l'assemblage de ces vins pour donner trois vins. Vous allez nous raconter, parce que c'est assez technique. En fait, vous avez été au lycée agricole de Roufac. Vous avez appris la technique de l'assemblage du vin et ça vous a amené vers le vin cachère et le vin bio cachère.
Alors, oui, c'est à peu près ça, dans le sens où finalement, donc, dans ce lycée viticole, on m'a appris à conduire la vigne et à être présent dans toutes les actions à mener lorsque l'on fait ce travail dans la vigne. En parallèle, il était nécessaire de faire un stage dans une entreprise viticole, chez un vigneron. Et donc, comme j'étais un petit peu sensible au fait que dans les vins cachers, je n'avais jamais jusqu'à présent, alors je dis jusqu'à présent, c'est une histoire qui remonte il y a 3-4 ans, vu des vins bio, il n'y en a pas tellement. Donc je me suis dit, c'est très intéressant d'aller chercher quelqu'un qui fait du vin bio. Et je suis arrivé là où je fais le vin à Geberschwihr. Et donc, c'était au mois d'août, je leur ai expliqué que je vais faire un stage, que je voulais faire du vin cachère. Alors on a passé 2 heures à parler, c'était très sympathique. Mais ils m'ont dit, bon écoute, pour l'instant on n'a rien pour toi, mais on revoit ça à la rentrée en septembre. Et finalement en septembre, on s'est mis d'accord que je fasse mon stage en entreprise avec eux. Donc le stage m'a permis de voir tous les aspects de la fabrication du vin qui se commence à la vigne. Donc en septembre, c'était septembre-octobre de 2023, me semble-t-il, que je suis arrivé après les vendanges qui étaient finies. J'avais fait les vendanges un petit peu partout en Alsace, dans le Haut-Rhin, autour de Colmar, où j'habite. Et donc j'avais vu aussi différentes façons de travailler, différentes approches, et puis les approches humaines, bien entendu, parce que le vin, c'est toujours convivial, mais même pendant les vendanges, il y a une ambiance assez conviviale. C'est vrai qu'il faut être honnête, en tant que juif, on est toujours un peu en décalage, me semble-t-il. Sachant une chose que Ezra a souffert, la reconstruction du deuxième temple, de 1500 ans, a envoyé un courrier aux Juifs d'Alsace leur demandant de revenir en Israël. Donc, s'il leur demande de revenir, c'est qu'ils étaient déjà présents, il y a 2500 ans, en Alsace. Et ça, c'est quelque chose qui est surprenant parce que, bon, on se rend compte que quand on est dans les villages, on parle avec les uns et les autres. Il y a quelque chose d'une espèce de fascination réciproque des Juifs et des Alsaciens. Pas tout le monde, mais un petit peu.
Et dans ce village, des traces de vie juive ?
Alors, dans ce village, je ne sais pas s'il y a des traces de vie juive, mais je sais qu'à côté de Roufac, il y a ce qu'ils appellent, alors je ne m'aventurerai pas à le dire en alsacien, mais c'est la ferme juive. Et quand même, ça gardait ce nom de ferme juive, etc., qui est utilisé d'ailleurs par les services de viticole de ce lycée. Alors, pour en revenir au domaine où je suis, écoutez, j'ai travaillé aussi bien dans la vigne, tailler la vigne, faire le planter des vignes, utiliser le tracteur au milieu de la vigne, etc. Tout ça, c'était pour comprendre où on avance. Et au fur et à mesure de l'évolution de cette formation, je savais qu'il existait des vins nature, mais je ne savais pas à quoi ça ressemblait. Alors, j'ai eu l'occasion de faire des dégustations au moment de la formation. Bon, bien entendu, en faisant très attention de ne pas avaler, mais pour savoir à quoi on s'attend et être très surpris et agréablement surpris par ces vins. Et donc, j'ai eu très envie de faire des vins comme ça où, finalement, c'est du raisin avec du raisin, et donc c'est la philosophie de la vigne, enfin du domaine où je travaille, où le vigneron n'est pas un vigneron, c'est une vigneronne. Alors son mari est à côté, il vient, etc., donc il n'y a pas de souci de yéroute, mais enfin, je veux dire, on est dans une approche un petit peu plus, je veux dire un peu plus douce, parce que je pense que les dames ont une attitude qui est un peu plus douce dans le travail, voilà. Ça dépend des gens, mais c'est le sentiment que j'ai. Donc on travaille d'une façon... D'ailleurs, c'est sa façon aussi de voir l'élevage du vin. C'est-à-dire, le vin, c'est très simple. Vous prenez du raisin, vous le pressez. Puis après, bah, la fermentation va commencer. Et on va séparer le jus. Voilà, on va faire, on va le mettre dans différentes cuves, la fermentation alcoolique, la fermentation malolactique, etc. Et toute l'idée, c'est d'accompagner le vin dans cette fabrication. C'est-à-dire, on le goûte régulièrement pour vérifier la qualité organoleptique du produit, mais on essaye de ne pas toucher. L'idée, c'est de l'accompagner, comme on accompagne des enfants dans leur éducation. Alors, on les corrige forcément un petit peu, mais voilà, on essaye de ne pas être trop dur quoi, avec eux. Et la même chose avec le vin. Et finalement, j'ai eu le choix de faire trois vins, des vins que j'aime, parce que moi, j'aime beaucoup le Pinot Noir. Puis bon, c'est vraiment mon vin du Cédère de Pessard. Parenthèse, comme ça, j'ai mis ce vin en bouteille. C'était après Pessard, de l'année dernière. Et cette année, Pessard, voilà, j'ai eu droit et j'ai bu une bouteille de vin à chaque cédère. Ce que je n'ai jamais fait auparavant, parce que toujours, arrivé au niveau du troisième verre, on est un peu sous, mais pas que un peu sous, on se sent un peu fébrile, un peu, je sais pas, quelque chose qui n'est pas agréable, forcément, et on se dit, bon, on va prendre du jus de raisin. Mais là, j'étais un peu sous, forcément, une bouteille de vin tout seul, oui. C'est quelque chose.
C'est l'ivresse, mais sans les inconvénients.
Mais sans les inconvénients. Et deux heures après la fin du cédère, etc., j'étais tout à fait net, et puis j'ai repris mon étude, quoi, avec Mara, pour étudier. Et j'étais bien, et le réveil, magnifique, et j'ai recommencé le deuxième soir. Bon, je me suis arrêté, j'ai pas continué à faire le cédère de Pessard toute la semaine, bien entendu. Mais voilà, c'est quand même un gage d'avoir un vin où il y a tellement peu de sulfite à l'intérieur et rien d'autre que ça pour le conserver légèrement. Voilà, 3 grammes à l'hectolitre, 3 grammes de sulfite pour 100 litres. Donc c'est vraiment des doses. Et l'idée, c'est ça, c'est de faire un vin avec le minimum d'intervention possible. Si on met un petit peu de sulfite dedans, c'est parce que c'est un conservateur c'est aussi naturel, hein, c'est du soufre. Ce conservateur-là ben, vous permettra de laisser votre bouteille sans être obligé d'avoir 15 degrés entre la cave et votre table. Et ça, c'est un peu compliqué à gérer au niveau de la logistique et des choses comme ça. Donc, voilà. Et une légère filtration pour avoir ce côté un petit peu limpide, élégant. C'est assez surprenant. Mon Pinot Noir est un petit peu surprenant parce qu'il a aussi un peu de gaz carbonique à l'intérieur. Ce gaz carbonique a l'avantage de le préserver, de le conserver, d'aider à la conservation. Alors, ça peut surprendre quand on va goûter le vin tout de suite, c'est un peu perlant. Certains savent ce que c'est, ne sont pas étonnés. D'autres, voilà, on sont un petit peu étonnés. Il faut laisser la bouteille ouverte quelques heures à l'avance.
Il y a besoin d'un peu de pédagogie quand même quand on achète du vin cachère bio.
Alors oui.
Ça n'a rien à voir avec la cacheroute d'ailleurs. La cacheroute, on va y venir dans un deuxième temps.
Oui.
Quelles sont les actions humaines qui ont été amenées en direction de ce vin pour garantir la cacheroute, une filtration particulière?
Ah non, au niveau de la cacheroute, c'est simplement que toutes les actions où le vin est en mouvement doit être fait par quelqu'un qui est habilité par le rabbin qui délivre l'attestation de cacheroute. En l'occurrence, c'est le Rav Wolf d'Amsterdam et le grand rabbin Fima de Colmar. Donc le rabbin Fima est venu sur les lieux avec le rabbin Morali, on a transmis toutes les informations à Rav Wolf, Raphaël, son fils, échangé tout au long du processus avec WhatsApp, hein, qui permet de faire des petits films quand on a besoin d'une question, etc. Donc, à partir du moment où le conquet arrive, c'est-à-dire la benne dans laquelle il y a la vendange, j'ai branché le conquet au grand tuyau qui arrive dans le pressoir, voilà, ça arrive par le haut, et puis j'ai mis en route le tracteur, et la vendange a été poussée par une hélice dite une hélice sans fin, voilà, qui pousse la vendange. Ça arrive dans le pressoir. Une fois que ça a été fini, j'ai refermé le pressoir et j'ai appuyé sur le bouton de démarrage du programme pour le cycle de pressurage, qui est un cycle qui dure quand même 5-6 heures, plus ou moins, ça dépend, avec des rebêches. Enfin, bon, voilà, c'est-à-dire on presse doucement, on ne pousse pas d'une façon trop forte pour pas écraser toutes les matières un peu végétales qui restent encore. On veut du jus et on veut pas des débris de pépins qui donnerait un goût un petit peu... on procède comme ça, on pousse, et puis après, on lâche, on fait un petit tour, toute la vendange se remue à l'intérieur, et on recommence à repousser, voilà. Et le jus de raisin va s'écouler dans les tuyaux que j'ai branchés, dans les cuves que j'ai nettoyées et que j'ai cachérisées à l'avance au Karcher en rentrant dans les cuves. Alors, bon, j'ai beau être souple, mais c'est quand même une expérience de se retrouver là-dedans. Ça vous fait une cabine de douche bien fermée où c'est chaud. Et c'est spécial. Hein. Alors, il y a des cuves qui sont encore plus petites. Et franchement dit, il y a un espèce de... Enfin bon, ça a vérifié comme ça, comme le MIGV. On se retrouve dans un endroit où finalement, on se dit, mais flûte, si la porte se referme, qu'est-ce que je vais devenir ? Ça vous entraîne des questions, mais qui n'ont rien à voir avec le vin. Et ensuite, de quoi ? Ben voilà, le jus est dans la cuve. Et il va falloir attendre peut-être à peu près 24 heures, quelque chose comme ça, pour les vins blancs. Hein. Le pinot noir, c'est une autre façon de travailler dans quelques instants. Donc on va séparer le jus qu'on obtient, le mou qu'on obtient du fond de la cuve qui est un dépôt qui ne nous intéresse pas, et puis passer ça dans une autre cuve qu'il aura d'ailleurs fallu cachériser à l'avance. Alors il y a tout ce jeu des cuves qu'il faut cachériser à l'avance pour que ce soit du vin cachère. Et puis bon, après j'ai scellé l'ensemble des cuves. Et au fur et à mesure de la fermentation alcoolique, j'étais là tous les 2-3 jours ou tous les jours quasiment, puisque j'habite pas très loin du domaine, pour prélever un petit peu de vin, pour le faire goûter à la vigneronne et à l'œnologue aussi. C'est ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on fait des vins grâce à du matériel moderne. On a l'embarras du choix des technologies. On n'est pas obligé d'utiliser tout ce qui existe comme produit qu'on peut mettre dans le vin, mais on peut quand même faire des analyses pour savoir si on a quelque chose qui est correct au niveau terri, enfin tous ces degrés qui doivent être affinés. Hein. Sinon, c'est dommage de ne pas en profiter. Et puis après, ben voilà, une fois que la fermentation alcoolique est finie, on va passer à ce qui s'appelle la fermentation malolactique. C'est de la transformation de l'acide malique, c'est un peu le goût de la pomme verte, en acide lactique, un peu comme les légumes fermentés au sel, etc. Et ça prend 6, 7, 8 mois, c'est temps d'une conception, en quelque sorte, dans une nouvelle cuve. Et ensuite, vers la fin, avant la mise en bouteille, on va procéder à une filtration et la mise en bouteille. Et après, il y a toute la partie passionnante qui est la commercialisation.
Oui, c'est ça, avec la création des étiquettes. Alors, Pinot Noir, Pinot Gris, Serenity, ce sont vos trois vins qu'on retrouve aujourd'hui sur les étals des magasins cachers, au marché Comtade, par exemple, ici à Strasbourg. Vous avez, vous, travaillé sur l'étiquette en mettant, donc évidemment, votre logo, votre nom, mais également... des versets de la Bible ?
Alors oui, un verset des psaumes qui m'interpelle parce que finalement, l'histoire du vin est vraiment intimement liée à Adam Harishon et à Chava, hein, puisque pour certains commentateurs, c'est le fruit défendu, c'est le vin, c'est le raisin. On peut imaginer que le raisin sur pied, dans certaines conditions, commence un peu à fermenter et que dans le grain du raisin, il commence à y avoir un peu d'alcool. Dans certaines conditions, voilà, ça peut se faire, pourquoi pas, on peut imaginer c'est comme ça. Donc, ils se sont empressés de le goûter sous les conseils, etc., du penchant à vouloir faire des choses... On dit le yetzer hara, le mauvais penchant, le truc qui nous entraîne à faire des fautes. Un des cours de Rav Rosenberg disant que la Torah était le tachil, l'épice du yetzer hara. C'est-à-dire, sans cette volonté de vouloir faire des choses qui parfois sont un peu critiques, et même parfois, la Torah elle est là pour vous dire non. Mais si on n'a pas ce désir de faire les choses, on ne fait rien, on ne ferait rien du tout. Donc il y a cette notion de canaliser en son temps et de la bonne façon cette impulsion qui nous motive les uns et les autres. Sinon, on fait n'importe quoi. Mais si on n'a pas cette impulsion, on ne commence même pas. Alors, le vin, il est là un petit peu où il entraîne finalement ce couple à déborder alors qu'ils auraient dû attendre le kidouche du vendredi soir. Ils ont bu le vin trop tôt. Et donc, par la suite, on va se rendre compte que tout au long de l'existence du peuple juif, il y a eu des moments où le vin est arrivé, a fait des dégâts. On est tenu de faire son kidouche le vendredi soir avec du vin. Bon, maintenant, il y a des gens qui utilisent du jus de raisin, ça, chacun voit comme ça lui convient. Et on doit le faire dans certaines règles. Et donc, la fabrication du vin lui-même obéit à certaines règles. La consommation du vin obéit à certaines règles. Finalement, on a un interdit de s'enivrer, sauf une fois dans l'année. Alors, tout le monde ne s'enivre pas à Pourim. On n'a pas l'obligation, mais on a la licence, entre guillemets, de s'enivrer à Pourim. Mais ça veut dire que ce jour-là, on peut aller jusqu'au stade où on va confondre entre Mordechai et Aman. Mais en fin de compte, on a cette autorisation qui nous permet de ne pas être trop sous contrainte. Mais ça veut dire que c'est une fois dans l'année. Et tout le monde ne le fait pas. Attention, hein. On n'est pas obligé de s'enivrer. C'est-à-dire, on est obligé quand même de consommer de l'alcool, du vin, en étant lucide, en étant capable de savoir où on va, de ce qu'on fait, etc. Alors, ce verset des psaumes du roi David, qui vraiment, le roi David, c'est un roi magique. Hein, sans lui, on n'aurait pas cette notion qui est de dire David Améler, Haïve Kayam, la malchoute de David. C'est un homme qui a beaucoup vécu des choses incroyable, et qui sait aussi dire que le vin contribue à cette petite joie qui est importante. Et moi, ça me fait un écho, parce que quand parfois on a des moments un peu difficiles dans la vie, alors si on s'apitoie sur son sort, ou si on est trop triste, etc., on est un petit peu en dehors de ce qu'on nous demande. On doit être heureux de chaque instant, parce que c'est un cadeau, la vie. Hein.
Vous avez une idée en termes de volume de ce que vous produisez par an ?
Alors non, c'est particulier dans le sens où vraiment c'est du parcellaire, c'est oui. Un respect du terroir. Ici, les trois vins que je présente, alors j'ai fait le Pinot Noir, bon, il y a tout un travail très particulier, le Pinot Gris que j'aime beaucoup, qui est un vin blanc, et cet assemblage de Gewürztraminer Riesling en vin sec. Ils sont tous issus d'un même terroir de grès des Vosges, avec un système racinaire qui est là très profondément enfoui dans la terre, parce que ce sont des vignes qui ne reçoivent plus de chimie depuis les années 80-90. Donc, ça descend. C'est une liane, hein, la vigne. Donc, ça va chercher profondément l'eau et les minéraux. Et ça rapporte ça dans les grains de raisin. Et ces grains de raisin sont chargés à la fois de leur goût spécifique au cépage et de la richesse du terroir. Alors, les trois viennent du même terroir. On a cette minéralité qui est intéressante. J'ai été à un des restaurants étoilés proche de Colmar, dont le patron est M. Eberlin, qui a fait les repas des 3000 ans de Jérusalem. Et je lui ai proposé, qu'il a bien voulu déguster avec les sommeliers les vins que j'avais. Donc, honnêtement, ils n'ont pas retenu les trois vins, ils ont retenu le Pinot Gris. Et c'est quand même quelque chose, à mes yeux, de marquant. Parce que, encore une fois, moi, je suis un peu un débutant dans le vin, pour être honnête. Je fais les gestes que la vigneronne me demande de faire. Hein. Elle me dit « fais ça », je fais les gestes pour que ce soit cachère. Ouais. Mais c'est elle qui sait ce qu'il faut faire. Et donc, que ce soit sanctionné positivement par un restaurant étoilé, c'est quand même un gage de qualité. Ce qui est intéressant, c'est que quand on va déguster ces vins, eh bien, on n'aura pas ce fameux petit goût propre au sulfite, qui est un peu acide. Alors, ça dénature un peu le goût du vin. Un restaurateur parisien m'a dit, mais il faut qu'on se réhabitue avec des vins où il n'y a pas ce goût, ce petit goût, etc. Donc là, vous avez la minéralité en fin de bouche. Vous avez les goûts des fruités, des fruits, les fruits des bois, des sous-bois, etc. pour le Pinot Noir, plus les autres fruits comme ça, un peu abricot, etc., pour le Pinot Gris, etc. Donc, mais j'aime pas trop donner des noms, parce que je préfère que chacun découvre par lui-même, prend le temps de savourer. Et alors, il y a aussi cette magie fabuleuse qui se crée en fonction du repas que vous avez avec vous. Vous avez un poisson, vous avez une viande, vous avez un fromage, un dessert, etc., un fruit. Chaque gorgée de vin mêlée à ce repas sera quelque chose de très étonnant. Et alors, un dernier truc que j'ai découvert, parce que souvent, on fait le zimoun à la fin du repas, etc. On a un kos avec du vin à l'intérieur. Et j'avoue franchement que j'aime bien terminer avec mon vin le repas. Parce que non seulement il y a un petit peu le goût du vin lui-même, etc., mais il y a aussi le côté digestif. C'est pas indigestif, mais il aide à digérer mieux le repas. C'est totalement une autre façon de voir le vin. Ça n'a rien à voir avec ce que je connaissais auparavant.
Youssef Gabizon, merci infiniment d'être venu nous voir pour nous parler de vin, de votre vin, de vos cépages, et plus largement un petit peu du vin dans l'histoire de la Torah et ce que vous avez appris aujourd'hui. C'était riche en enseignements, et pour cela, merci. Et puis évidemment, on va goûter à vos vins, donc le Pinot Noir, le Pinot Gris et le Serenity, qu'on peut trouver dans les boutiques cachères ici à Strasbourg, au marché Contade. Merci à vous.
Merci.
L'invité de la rédaction, Valérie Viard.